On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir sur France Bleu pour votre émission de confidence. Et ce soir, on le disait, c'est un thème difficile, on en est bien conscient, mais qui touche quand même de nombreuses familles. Le cancer de l'enfant, il faut savoir que 500 enfants de moins de 15 ans meurent chaque année en France d'un cancer. Ce sont 500 familles qui sont endeuillées, qui restent parfois sans réponse. Des camarades de classe qu'il faut consoler, à qui il faut expliquer la maladie. On va parler de tout ça avec vous qui avez connu ça ou qui connaissez ça en ce moment. Votre enfant a eu un cancer, comment la maladie est entrée dans votre quotidien, comment vous avez pu en parler avec lui, comment le corps médical vous a accompagné, comment la famille continue d'avancer. On pense notamment aux familles quand il y a d'autres enfants, comment on fait pour s'occuper d'eux alors qu'on est focalisé sur l'enfant malade. 0810 055 056, c'est le numéro d'On se dit tout, et vous avez la parole jusqu'à 22h en compagnie ce soir de Jerry Ayan, auteur du livre Pourquoi je suis pas un papillon aux éditions de l'Archipel. Bonsoir Jerry Ayan.
Bonsoir Vanessa.
Votre livre, c'est votre histoire, plusieurs années de votre vie avec votre famille et avec votre fille, de l'annonce de sa tumeur jusqu'à son décès. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre au-delà de l'hommage et de l'amour que vous avez pour votre fille?
Moi, ma passion, c'est l'écriture. Je viens du journalisme et de la communication. Vous savez, quand on sort d'une épreuve comme celle-là, il y a plusieurs moyens d'essayer de rebondir. Malheureusement, certains dépriment, certains tombent dans l'alcool, d'autres font du sport. Moi, j'ai choisi d'écrire. J'ai choisi d'écrire parce que ma fille me l'avait demandé quelque part, puisque dans les derniers mois de sa vie, souvent, elle nous disait « Vous ne m'oublierez pas ». Avec un petit point d'interrogation. Et moi, c'était ce que je voulais faire. Je voulais l'écrire. Je voulais aussi l'écrire parce que je voulais partager avec la famille et les proches. Nous avons eu, nous, énormément de soutien. Et ça, ça compte, bien sûr.
C'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas. Moi, j'ai pu ensuite parler avec des personnes. Et j'ai vu aussi des cas lorsque j'étais ici à Paris, à l'Institut Curie, alors que nous sommes de l'île de la Réunion. Nous avons dû nous exiler, c'est vraiment le cas de le dire, pendant à peu près 4 mois, ma fille et moi, pour être à l'Institut Curie. Et j'ai croisé d'autres familles qui viennent ou de la Réunion, ou des Antilles, ou d'autres pays, et qui n'avaient pas, on dirait, la même chance, entre guillemets, que nous, qui avions un fort réseau d'amis qui nous ont soutenus, mais vraiment pendant et après aussi. Mmh. Et à ces amis et à cette famille qui s'est vraiment soudée autour de nous, je voulais raconter toute l'histoire, parce que même quand on est proche, vous voyez, même mes sœurs et mon frère, ils ont vécu 20%, 30% de ce que je raconte dans le livre. Parce que quand on est au quotidien confronté à cette maladie, quand on est confronté vis-à-vis de sa fille, à l'évolution de la maladie et comment faire, ces questions-là vous prennent vraiment au corps et à cœur pendant tout ce temps, et vous n'avez pas le temps d'en discuter. Et justement, je voulais partager ça, et il se trouve que ce qui était un travail, on va dire, un petit peu d'exutoire familial et amical, a trouvé un éditeur, parce que j'ai un ami qui l'a envoyé aux éditeurs nationaux. Il y en a un qui a vu l'histoire, qui a lu l'histoire, et qui m'a dit « j'aimerais bien le publier ».
Et voilà, et le livre est là, Pourquoi je suis pas un papillon, aux éditions de l'Archipel. Et on va vous écouter en parler pendant 2 heures. Vous aussi, venez nous raconter votre parcours, votre histoire, les difficultés, les moments de doute aussi parfois. On va parler du jargon médical, pas toujours très facile à comprendre. Et on va parler de famille, de soutien, d'amis. Les cancers de l'enfance, c'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Chaque année, environ 2550 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants et les adolescents. Ils sont aujourd'hui la deuxième cause de mortalité entre 1 et 14 ans. Tous les enfants atteints d'un cancer n'en meurent pas, mais toutes les familles connaissent les mêmes angoisses entre l'annonce de la maladie, les discussions avec les médecins, les spécialistes qui s'enchaînent, les traitements souvent très lourds pour de si petits bouts, les périodes de rémission, les rechutes, l'école, les copains qu'il faut prévenir, la vie qui s'arrête à côté pour ne se concentrer que sur son enfant. Vous l'avez vécu, vous aussi, vous le vivez en ce moment. On vous attend au 0810 055 056 jusqu'à 22h avec Jerry Ayan, qui est notre grand témoin, auteur du livre Pourquoi je suis pas un papillon, aux éditions de l'Archipel. Et c'est Inès qui est avec nous pour démarrer cette émission dans les Landes. Bonsoir Inès.
Oui, bonsoir.
On va parler de votre petit garçon de 8 ans, il s'appelle comment ?
Oui, il s'appelle Damien.
Il s'appelle Damien, et Damien est atteint d'un cancer des poumons.
Oui, pour la seconde fois. Il a eu un cancer d'un poumon côté gauche et puis bon, on m'avait dit bon ça va, ça y est, il est guéri et puis très peu de temps après rebelote, c'est passé à droite, donc voilà. Mais mon petit garçon est extrêmement courageux. C'est un musicien. Il faisait déjà partie d'un orchestre de chambre et il me donne des leçons. Je ne sais pas si je pourrais parler. Des leçons de vie. Donc il est extrêmement courageux. Il semblerait que là, il soit tiré d'affaire, mais moi, je me retrouve toute seule. J'ai perdu mon mari. J'ai eu beaucoup de deuil autour de moi. Et là, j'ai perdu mon mari qui nous soutenait. Et je me retrouve dans une drôle de situation. Donc, les finances sont bien en baisse aussi. Enfin, c'est horriblement cher. Je suis toute seule. Je ne sais même pas comment faire. Là, mon petit garçon va sûrement revenir à la maison. Mais la maison est à restaurer. Je ne sais même pas comment je vais faire. Voilà, c'est très difficile quand on est seul.
Quand vous voilà. Dites c'est une leçon de vie, ça se...
Il est extrêmement courageux.
Oui.
Et il a continué à jouer du violon, même extrêmement fatigué. J'ai réussi à faire comprendre au médecin qu'il fallait le laisser faire son violon, même si c'était que quelques minutes. Ça l'aidait beaucoup. C'est sa vie, donc. Mais j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre ça au médecin et il voulait pas.
C'est important, Jérémy.
C'est étonnant parce que justement, je retrouve un petit
oui,
peu le parcours de ma fille. Ma fille, elle faisait de la peinture entre autres et elle s'est adonnée de plus en plus à la peinture et j'ai l'impression que cet espace de créativité lui a permis d'être encore plus solide et plus forte face à la maladie. Quand vous dites que votre fils vous donne des leçons de vie, nous aussi, ça a été pareil et j'ai l'impression pour avoir pu parler avec des parents après, pas pendant malheureusement, puisque j'en parle dans le livre, mais après, j'ai l'impression que nos enfants sont peut-être plus forts que nous, adultes, face à ce type d'épreuve. Est-ce que c'est parce que ils ne sont pas encore habitués à se poser des questions? Est-ce qu'ils ne sont pas habitués à se remettre en cause? Est-ce que, je ne sais pas, je ne sais pas analyser ça, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, mais force est de constater que nos enfants sont beaucoup plus forts que nous. Et si vous dites qu'ils vous donnent des leçons de vie, bah, prenez ces leçons de vie. Moi, c'est ce que j'ai pris, hein. J'ai été un peu comme une éponge, face à tout ce que nous a fait vivre notre fille qui était fantastique, qui a été étonnante, de solidarité, de lucidité, un courage exemplaire, une force exemplaire et c'est elle qui nous a montré la voie à suivre et d'ailleurs son médecin traitant comme dernier hommage lui a dit tu nous as fait grandir. Donc aujourd'hui c'est aussi comme ça que nous nous en sortons au niveau de notre famille, c'est qu'on se nourrit des leçons de vie que notre fille nous a apportées pendant cette période.
Et Inès, voilà. comment votre fils parle de son cancer? Est-ce qu'il met des mots dessus? Est-ce qu'il dit cancer par exemple? Est-ce qu'il est très réaliste par rapport à tout ce qui se passe?
Oui, absolument. En plus, c'est un enfant surdoué, donc non, il n'a pas peur. Et ce qui a été le plus dur, c'est qu'il me parlait de la mort tous les jours. Et ça m'a...
Ils ont besoin d'en parler. On a l'impression que ça revient beaucoup.
C'est très difficile pour les adultes. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très difficile. Donc, surtout que je sors de plusieurs deuils successifs. Donc, voilà.
Vous savez, Inès, ma fille, elle avait une attitude différente de votre fils. Dans une volonté, d'après la psychologue, de nous protéger, elle ne nous en parlait absolument pas. Quand elle souffrait, elle ne nous le disait pas. Quand elle n'était pas bien, elle ne nous le disait pas. Et quand vous dites que votre fils vous parle de la mort, nous, on nous a incités à parler de la mort avec notre fille. Elle a éludé ça d'une manière, mais qui me reste encore en tête. Elle nous a dit « Oui, la mort, je sais. Et alors ?» Voilà, et elle nous a dit « Oui, ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas ce qu'il y a après. En revanche, en ce moment, je souffre, mais ça, c'est pas grave. » Donc, chaque enfant a, je crois, sa façon, selon sa personnalité, de se construire face à la maladie. Moi, je suis heureux de vous entendre dire que votre enfant est sorti d'affaire. Et vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du monde maintenant. Et à vous aussi, même si c'est difficile. Et là, pour vous dire, c'est la solidarité familiale et la solidarité des amis qui est importante.
Et Inès, surtout, ne restez pas toute seule. Il y a des associations qui peuvent vous aider. Là, oui. Vous parlez d'un retour de votre fils à la maison, de difficultés financières. Rapprochez-vous peut-être, c'est un conseil que je vous donne, d'une assistante sociale, d'une association qui vont peut-être vous aider, trouver quelqu'un aussi pour vous assister, avoir un petit peu d'heure de répit aussi. On sait que accompagner un enfant quand il est malade ou quelle que soit la personne malade, c'est compliqué. Donc faites-vous aider, Inès, ne restez pas toute seule.
Oui.
D'accord ?
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir appelés.
Enfin,
un gros bisou à votre fils et on espère que ça va aller de mieux en mieux pour lui, mais il est bien parti. Le cancer de l'enfant, c'est le sujet dont se dit tout. Ce soir, les cancers de l'enfant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cancer. C'est toujours très compliqué quand on découvre que son enfant est atteint d'une leucémie, d'un cancer. C'est peut-être votre histoire à vous aussi. Racontez-nous comment vous le vivez, comment vous l'avez vécu, les moments qui ont été les plus difficiles. On va parler de communication aussi avec le corps médical, de solidarité, d'affection, de famille, de médicaments, de traitements, de force. On l'a entendu déjà dans le témoignage d'Inès. 0810 055 056 pour nous rejoindre sur France Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Votre enfant a eu un cancer et pour vous le monde s'est écroulé parce que ce n'est pas dans la logique des choses, parce que c'est injuste, parce qu'on ne fait pas un enfant pour le voir souffrir et même le voir partir pour certains. Comment vous avez vécu cette phase de votre vie? Comment est-ce que vous avez ensemble parlé de la maladie? Comment le corps médical et la médecine de façon plus globale vous a expliqué, encadré, soutenu? D'ailleurs, s'il y a des personnels hospitaliers qui veulent témoigner, vous êtes aussi les bienvenus. 0810 055 056, c'est le numéro dont se dit tout. Je sais que c'est pas forcément évident de venir témoigner sur ce sujet, mais c'est important de pouvoir en parler. Et on le fait avec Jiré Ayan, qui est notre grand témoin. Il a perdu sa fille Anne-Laure d'un cancer et raconte son histoire dans le livre « Pourquoi je suis pas un papillon » aux éditions de l'Archipel. En attendant les prochains témoignages, Jiré, j'aimerais qu'on parle de l'annonce de ce moment où tout s'écroule. Pour vous, ça a été...
Bah, tout s'écroule.
Oui, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est difficile de pouvoir en parler ensuite à son enfant.
C'est très difficile d'ailleurs. Nous, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la découverte de la tumeur cérébrale. Donc, nous étions avec l'interne qui, suite à plusieurs épisodes de migraines, de nausées, de vomissements, nous avait accueillis parce qu'on voulait savoir à quoi correspondaient toutes ces symptômes. Et donc, au sortir d'un scanner, il a employé des mots très tendres, très doux, il a refait l'historique. Et puis, à un moment, il a fallu bien qu'il lâche, on a découvert que votre fille a une tumeur au cerveau. Oui, à ce moment-là, tout s'écroule, on n'entend plus rien, on ne voit plus rien, on essaie de comprendre. Et il y a un accompagnement qui, pour nous, a été vraiment très bien fait, hein, je l'avoue, qui permet effectivement de comprendre ce qui va se passer, puisque il y avait urgence à traiter notre fille, et elle a dû prendre un hélicoptère pour aller dans le sud de l'île, là où il y a le plateau de neurochirurgie. Donc, déjà, vous êtes complètement coupé de votre fille.
Oui, vous avez mis beaucoup de temps pour aller la rejoindre en voiture.
Voilà, pour ceux qui connaissent la Réunion d'il y a quelques années, pour rejoindre le sud en partant du nord, même s'il n'y a que 90 km, on prenait 2 heures de temps, tant les routes sont encombrées, et surtout un vendredi après-midi, au sortir des jours de semaine, et lorsque tout le monde rejoint la station balnéaire de l'Ouest pour le week-end. Donc là, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement difficile, je n'ai même pas les mots pour le dire, et je ne sais honnêtement plus comment on en est sorti, mais on se laisse emporter par les événements, on est des pantins aux mains de la médecine.
Et vous n'avez pas pu lui dire à votre fille, c'est pas vous qui lui avez annoncé?
Non, on a demandé à l'interne de lui dire, parce qu'il était impossible pour nous de sortir quelques mots que ce soit, ça devenait complètement irréaliste. On est dans un maelstrom pris dans un tourbillon qui nous emporte d'un côté et de l'autre, tout cogne dans la tête, on est vraiment très très mal. Après, il faut reprendre le dessus, on essaye, on le fait, on est entouré. Ensuite, il y a l'annonce du départ en métropole, parce que c'est 6 semaines après. Et là, pareil, on est dans une situation mais complètement aberrante, puisqu'on est en train de célébrer le mariage d'une de mes nièces. Et on nous appelle à ce moment-là pour dire, écoutez, il y a un petit problème, il faut que vous preniez l'avion, vous allez à l'Institut Curie, on vous y attend. Et là, c'est encore une autre épreuve, parce que tous les gens sont en train de s'amuser autour de vous, et nous, on ne voulait pas passer pour les apporteurs de mauvaises nouvelles. On a été hypocrite, on a dû jouer la comédie. Comme je dis, quand on a envie de dire à quelqu'un qui vous dit ça va, on dit oui ça va, alors qu'on a envie de crier non ça va pas. C'est quoi cette injustice? Qu'est-ce qui se passe? Il faut sourire quand on a envie de pleurer. Enfin bref, il fallait jouer cette comédie là. Après, il y a l'annonce de la récidive, ça aussi c'est encore quelque chose de terrible, mais c'est graduel. Et même si on se dit, allez, on a peut-être l'habitude maintenant de ces annonces, et ben à chaque fois c'est un pas de plus vers l'horreur, c'est un pas de plus vers voilà.
Vous parlez de l'interne, le premier qui vous a accompagné, qui vous a expliqué. Mmh. Est-ce que dans l'ensemble vous trouvez que le corps médical vous a bien expliqué tout ce qui se passait, qu'on vous a bien expliqué c'est quoi exactement une tumeur, le cancer, comment ça se développe? Est-ce que vous aviez eu vraiment toutes les informations que vous vouliez pour votre fille?
Nous, c'est ce que on a ressenti. On a ressenti vraiment autour de nous des infirmiers, des internes et des médecins qui étaient à l'écoute et qui nous répondaient franchement, même si parfois eux-mêmes n'avaient pas la réponse, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi quelque chose à un moment que nous avons demandé aux médecins, c'était de ne rien nous cacher. On se sentait suffisamment fort à un moment pour tout accepter et ils l'ont compris. Et c'est vrai que à des moments très durs, ils nous ont employé des mots durs aussi, mais ils savaient que c'était à notre demande. Et on avait dit, dites-le nous on assumera les conséquences.
Mais on veut savoir.
On veut savoir. Et même notre fille, pareil, on avait toujours besoin d'un vecteur, on avait toujours besoin d'un médiateur qui était souvent le médecin. On n'arrivait pas à lui dire, jusqu'à la fin, on n'arrivait pas à lui dire. Il y avait toujours un médecin pour lui dire. Et elle aussi, elle a eu une capacité d'absorption de l'information qui a été étonnante.
Les cancers de l'enfant, c'est le sujet d'On se dit tout ce soir sur France Bleu. Et si vous aussi, vous connaissez ça, si vous l'avez vécu, si vous avez perdu peut-être aussi un enfant suite à un cancer, ou si en ce moment, vous vous battez ensemble contre ce cancer, venez nous en parler, nous raconter votre quotidien, la vie de famille, la vie à l'hôpital, ce qu'on dit aux autres enfants de la famille également. 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Comment vous avez découvert que votre enfant avait un cancer? Comment vous avez encaissé la nouvelle aussi? Et puis après l'annonce, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez eu l'impression que tout vous échappait, que la recherche n'allait pas assez vite, n'allait pas assez loin? C'est en partie ce que dénonce Andjéré Ayan, notre grand témoin. Et puis qui dit cancer de l'enfant dit aussi cellules familiales chamboulées, les frères et sœurs dont il faut quand même s'occuper alors qu'ils ne sont plus la priorité, le temps qui n'a plus les mêmes repères. Racontez-nous votre histoire sur France Bleu. Le cancer de votre enfant, c'est le sujet d'On se dit tout au 0810 055 056. Et nous sommes maintenant dans le Vaucluse avec Valérie. Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir.
On va parler de votre fils, il a 21 ans aujourd'hui, il est en rémission et à 16 ans et demi, vous lui avez découvert une leucémie.
Oui, en avril 2013, j'étais enceinte de mon dernier enfant, de mon sixième enfant. J'étais enceinte de 6 mois et j'ai appris que mon fils avait une leucémie.
C'était quoi les premiers symptômes? Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait être ça et ensuite ça a été confirmé?
Les premiers symptômes, il était très fatigué, mais il passait le bac blanc, donc il voulait pas louper, donc il voulait pas que je l'emmène chez le médecin, il m'a dit d'attendre. Donc j'ai attendu 8 jours, après c'était les vacances scolaires, donc je l'ai emmené chez le médecin. Il lui a fait faire un bilan, et le jour où l'infirmière est venue, il avait le teint très jaune, donc ça confirmait une hépatite virale. Et pendant 15 jours, il a eu effectivement une hépatite virale. Après, le bilan hépatique est remonté, sauf que les plaquettes ne remontaient pas.
Et là, c'est le premier signe.
Voilà.
C'est la première alerte.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Vous êtes enceinte à ce moment-là. Vous devez aussi gérer ce petit enfant qui va arriver, votre grand qui est malade. Comment vous avez géré tout ça, Valérie?
Parce que j'ai 6 enfants en tout.
Oui. Ah oui, il y avait tous les autres enfants, bien sûr.
À l'époque, le plus jeune n'avait que 2 ans et demi.
Comment vous l'avez géré, Valérie, entre les rendez-vous avec le médecin, l'hôpital, l'annonce de la maladie, les frères et sœurs qu'il faut gérer?
Très dur. Très dur parce qu'on se sent vraiment tout seul. On passe devant un psychologue à l'hôpital. Mon fils était soigné à l'hôpital de la Timone, donc j'ai vu un psychologue à l'hôpital de la Timone qui m'avait prévenu que, bah voilà, qu'il fallait s'attendre à. C'est là qu'on faisait le tri des amis, quoi. Les bons amis allaient rester et les faux amis partiraient, quoi. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il ne nous reste plus qu'un couple d'amis.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les autres amis, ceux qui sont partis?
J'ai jamais eu de nouvelles. Ils m'ont jamais rappelé.
Ah oui. Rien. Ça voilà. Fait peur à ce point-là, Jerry Ayane, d'avoir un enfant avec un cancer?
Ah oui, ça fait peur. Je le dis, ça isole, ça désociabilise et vous vous sentez parfois démuni. Même si après, moi j'ai été aussi dans une attitude de compréhension et presque de pardon. Parce qu'effectivement, c'est vrai que J'ai de nombreux amis. Parmi eux, il y a quelques-uns avec qui, j'avoue, je me suis engueulé carrément parce qu'ils ne donnaient plus de nouvelles, parce qu'ils n'appelaient pas. Et je leur ai dit, tu fais plus partie de mes amis, qu'est-ce qui se passe ? C'était le silence le plus complet. Bon, après, effectivement, j'ai d'autres très bons amis qui m'ont expliqué qu'il fallait les excuser parce que c'est très difficile, surtout face à un enfant, d'essayer d'aborder ces sujets. Et il m'avait dit, cet ami, que « Excuse-moi, mais même par rapport à toi, parfois, on ne sait pas quoi te dire, mais nous sommes là. » C'est effectivement,
déjà,
ce
c'est
sont
bien
des présences
de le dire.
Importantes.
Nous sommes là.
Exactement. Mais je comprends. Nous, on s'est retrouvés seuls, d'une part, effectivement, parce que des amis n'ont plus été là, mais j'ai cette chance d'en compter beaucoup, et beaucoup qui sont restés. Et je dis toujours, le cercle familial et le soutien des amis est la chose la plus importante qui puisse être. Et puis, il n'y a pas l'accompagnement que pendant, il y a l'accompagnement après. Nous aussi, après le décès de notre fille, les amis sont restés, les vrais. Mais heureusement, je sais pas, je suis une exception, mais il y en a eu beaucoup. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que nous, en tant que parents, on avait cherché d'autres parents avec qui parler, parce que, vous le savez bien, toute la vie quotidienne est chamboulée. Notre fille se réveille à 11h et ne veut pas aller au collège. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui dit, mais il faut y aller, il faut que tu rattrapes les cours ? Notre fille ne veut plus prendre à manger ce qu'elle adorait auparavant. Est-ce qu'on lui dit, mais attends, il faut que tu manges ? Toutes ces questions
d'ordre pratique. C'est l'autorité parentale même qui est remise en question.
On ne sait pas quoi faire, on est complètement démunis. Personne n'est préparé à affronter ce genre d'épreuve. On ne nous a pas appris. Et donc là, je suis allé à la recherche de parents qui pouvaient m'en parler. Et vous savez, on n'en a pas trouvé. Parce que le corps médical, d'abord, se retranchait derrière le secret médical. Mais même des associations à qui nous nous sommes adressés, en leur demandant de nous mettre en contact avec des parents qui pouvaient nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont réagi par rapport à leurs enfants, on n'a trouvé personne parce qu'on nous avait dit « ils ne veulent plus en parler ». Donc effectivement, de tous les côtés, cette maladie,
le dialogue est compliqué. Valérie, aujourd'hui, votre fils a 21 ans, ça veut dire qu'il va bien aujourd'hui ?
Il est en rémission, voilà, j'ai touché du bois. Bon, suite au traitement, il va avoir une prothèse de hanche, parce qu'il a la tête du fémur qui est bouffée aux trois quarts, quoi. Par les corticoïdes.
Mmh. Il accepte bien la nouvelle ? Il comprend ?
Oui, lui, il accepte bien, il s'est toujours bien battu. Voilà, moi, je l'ai jamais laissé tomber, j'avais beau être enceinte de 6 mois. J'ai fait 4 heures de route tous les jours pour aller le voir à l'hôpital de la Simone à Marseille. Parce que j'habite à 2 heures aller et 2 heures retour, ça faisait 4 heures.
Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est à bout ? Est-ce qu'on en parle ? Il est en rémission ? Est-ce que c'est derrière vous ? Ou est-ce que vous êtes très, vous faites quand même très attention, vous, lui aussi ? Est-ce qu'on en parle de ce cancer ?
Lui, pour lui, il est guéri, quoi. Mais pour moi, j'ai du mal, quoi.
Et juste, je voulais juste savoir, parce que je suis aussi père d'une autre petite fille et d'un grand garçon, vous avez plusieurs enfants, comment ils réagissent ?
Alors, mes enfants, ils ont tous été perturbés à l'époque. Mon fils aîné, qui avait un an de plus que son frère, ils ont été élevés comme des jumeaux, était en études à la Sorbonne à Paris, et il a voulu tout arrêter. Donc, il a tout arrêté pour revenir près de son frère. Mon troisième fils faisait le pitre en classe. Ma fille, elle a pris 10 kilos en 6 mois. Ouais. Mon petit garçon, qui avait 2 ans et demi à l'époque, a été tellement traumatisé que le traumatisme lui est tombé sur la vue. Il a une grosse hypermétropie avec une correction de 8 et de 9.
Donc on voit l'importance de parler, l'importance de se faire aider. C'est pas que l'enfant qui a ce cancer qu'il faut aider, c'est tout l'entourage aussi, les parents, les frères et sœurs. Et c'est bien qu'il puisse y avoir des consultations psy à l'hôpital, mais pas que pour la première cellule, j'ai envie de dire, faut élargir un petit peu plus. Valérie, merci de votre témoignage et on espère aussi que tout va bien se passer pour votre fils qui a 21 ans maintenant, votre grand garçon, et puis essayez de voilà, de souffler aussi un petit peu, vous aussi, vous avez le droit. Le cancer de l'enfant, c'est le sujet d'On se dit tout ce soir avec vos témoignages très prenants, très poignants au 0810 055 056, la suite dans un instant.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à partir du moment où on a diagnostiqué un cancer chez votre enfant? Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, mais dans le quotidien qui se retrouve évidemment chamboulé par cette annonce violente? Les sentiments se bousculent, l'incompréhension, la colère, la culpabilité pour certains parents, le dialogue qui n'est pas toujours très simple avec les médecins dont on ne comprend pas toujours tout ce qu'ils nous disent, le dialogue compliqué aussi avec l'enfant qui est malade, qui est si fort alors que vous avez envie de pleurer. Ce soir, on parle des cancers de l'enfant dans On se dit tout et c'est vous qui nous en parlez, vous qui l'avez vécu ou qui le vivez peut-être en ce moment. 0810 055 056, on vous attend sur France Bleu en compagnie de Jerry Ayan qui a perdu sa fille Anne-Laure d'une tumeur cérébrale et qui raconte son histoire dans le livre Pourquoi je suis pas un papillon. C'est aux éditions de l'Archipel et nous sommes maintenant à Saint-Étienne avec David. Bonsoir David.
Bonsoir.
On va parler de votre fille de 3 ans qui a eu un lymphome, qui est en rémission aujourd'hui.
Oui, voilà, exact. Donc, ma fille a eu un lymphome de Burkitt, donc qui a été détecté le 31 octobre.
C'est quoi comme, pour nous expliquer un peu David, parce que là c'est un peu le jargon, c'est quoi comme type de cancer?
C'est des ganglions atypiques, en fait, c'est un ganglion qui a fait laisser enfin, des cellules qui se sont multipliées.
D'accord. Vous l'avez découvert comment? À quel moment vous avez été alerté?
Ma femme, donc, elle a vu qu'au niveau de la gorge, il y avait une grosseur. Donc, moi, vu que je suis chauffeur routier, donc je pars toute la semaine. Donc, ma femme m'a appelé, me disant, Maëlys, elle a chopé une grosseur au niveau de la gorge. Qu'est-ce que je fais? Donc, je lui ai expliqué qu'emmène-la aux urgences en précaution. Donc, les urgences, donc, ils ont fait des analyses, machin. Donc, rien n'était inquiétant dans leurs yeux. Le lendemain, donc le jeudi, pareil, ça avait un peu plus grossi. Donc là, cette fois, elle s'est dit, c'est bizarre, ça grossit. Donc elle a rappelé les urgences. Les urgences ont dit la même chose. Ont dit, on vous fera rien de plus qu'on a fait hier. Et donc le vendredi, il s'est avéré qu'on déterminait plus la joue et la gorge. Donc là, l'urgence, et à 17h, à 17h, ils ont décidé de l'opérer en pensant que c'était une infection. Et pendant l'intervention chirurgicale, ils ont découvert qu'ils avaient retiré un ganglion atypique. Et...
Quand votre femme vous appelle pour vous donner des nouvelles de votre fille, comment vous réagissez, David ?
Là, actuellement, en sachant que ça va, mais sans plus, quoi. On peut se dire, dans notre tête, on n'est pas tout à fait à 100%, quoi.
Ouais. Aujourd'hui, elle va comment, votre fille, alors? Vous dites qu'elle est en rémission, ça veut dire qu'on est quand même toujours sur le qui-vive, hein?
Oui, donc elle, tout va bien. Pour elle, il n'y a rien qui... Voilà, elle sait qu'elle est passée dans une phase où, par la cure chimio, tout ça. Et du coup, moi, personnellement, je la trouve bien. Elle nous dit pas trop, c'est vrai qu'un enfant de 3 ans nous dit pas trop ce qu'il a. Mais j'ai l'impression qu'elle ne se plaint pas.
Comment on en parle, justement, à une petite fille de 3 ans? Quel mot on emploie, David? Est-ce que c'est vous qui les avez trouvés, ces mots? Est-ce que c'est le corps médical qui vous a aidé?
Non, c'est le corps médical qui a pu se trouver en disant qu'il y a des soldats. Enfin, ils vont, voilà, en parlant de à peu près de leur âge, quoi. Enfin, d'un enfant de 3 ans, nous, en tant que parents, on ne sait pas trop expliquer qu'ils sont plus...
Ils sont habitués.
Ils sont habitués à dire les choses.
Le mot rémission, on a parfois l'impression, Jerry, que c'est une première victoire, mais on reste toujours très prudent.
Oui, parce que je suppose, David, que votre fille continue d'avoir des analyses régulières.
Ah oui, oui.
Tous les 3 mois.
Là, oui, donc on a tout eu aujourd'hui, donc on a eu la nouvelle que sous peu elle allait enlever son cathéter qui a au niveau du cœur.
Donc ça veut dire il n'y a plus de chimio prévu en vue là. Hein.
Voilà, Voilà, il n'y a plus de chimio, donc maintenant c'est tout des examens scanners et tout ce qui s'ensuit.
D'accord. Effectivement, parce que nous, ce qu'on nous avait dit, c'était après la chirurgie et après la première radiothérapie, on nous avait dit qu'il fallait pendant 2 ans suivre avec des analyses et des examens tous les 3 mois à peu près. Au bout des 2 ans, s'il n'y avait pas d'évolution, on pouvait considérer que c'était guéri à 50% et que pendant les 3 ans qui suivaient, on allait espacer les examens tous les 6 mois à peu près, et qu'au bout des 3 ans, on pouvait considérer que le risque de rechute était très 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 faible. Malheureusement pour ma fille, on voyait la première étape des 2 ans arriver avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attente, et à 1 mois et demi avant cette barre des 2 ans, malheureusement, elle a reconnu un nouvel épisode de vomissements et de nausées, et nous, on a tout de suite compris que cette fichue tumeur était revenue. Mmh. Donc j'espère pour vous que vous ne vivrez pas la même chose et que tous ces 2 ans vont être bien pour vous.
David, merci de votre appel, et on vous souhaite évidemment à vous et votre famille des jours un peu plus calmes et un peu plus sereins. On parle de cancer ce soir dans On se dit tout, et plus particulièrement des cancers de l'enfant. C'est pas un sujet facile, on est bien conscient de tout ça, mais on en parle et ça fait du bien d'en parler, de pouvoir échanger aussi sur votre ressenti. 0810 055 056 pour nous rejoindre.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Chaque année, en France, 500 enfants de moins de 15 ans meurent d'un cancer et 2550 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. On en parle ce soir avec vous de l'annonce de la maladie, des traitements, des rechutes, de la famille entière qui est perturbée, du discours des médecins que vous ne comprenez pas toujours. Vous avez connu ça vous aussi. Venez nous raconter votre parcours au 0810 055 056 avec Jerry Ayan qui nous parle de son parcours, de sa fille et qui publie le livre « Pourquoi je ne suis pas un papillon » aux éditions de l'Archipel. Et nous allons partir maintenant à Grenoble, chez Zineb. Bonsoir Zineb.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Vous vouliez nous parler d'une association, l'association SOS Léni.
En fait, c'est pas que je voulais vous parler d'une association SOS Léni, c'est que en fait, on m'a demandé pourquoi j'étais impliquée dans ces concerts, donc j'ai dit qu'on avait créé une association SOS Léni, mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Et donc, en fait, comme le combat avait commencé, pour moi, c'était obligatoire que dès l'instant où j'avais mis un pied dedans, il fallait que je me rapproche avec d'autres associations pour continuer le combat que mènent les parents. Donc je me suis rapprochée d'autres associations, donc je peux en citer quelques-unes, il y a Eva pour la vie.
Et pourquoi vous avez fait ça au départ? Vous étiez concernée directement?
Parce que j'ai un ami qui a eu un petit garçon qui était atteint d'un neuroblastome, et donc il avait fait un appel sur YouTube, un SOS, parce qu'il avait besoin d'un médicament, d'un traitement qui pour lui était inaccessible en France et qui coûtait très cher. Et donc il a fait un appel aux dons, et donc par ce biais-là, on a réussi à récolter les fonds pour que Léni puisse bénéficier de ce traitement.
C'est normal, ensuite, ça, de se dire il existe un médicament, mais il coûte tellement cher qu'on ne va pas vous le donner?
Ben, c'est pas normal, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et c'est inadmissible de faire appel à la générosité des gens qui sont parfois dans des situations pas forcément financièrement agréables, mais qui ont les moyens. Et en général, c'est souvent eux qui donnent le plus, quoi. Et c'est pas normal parce qu'il devrait y avoir un fonds dédié pour les enfants, quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, et c'est un de vos combats, Jerry Ayan, aujourd'hui, la recherche sur les cancers des enfants, elle existe quasiment pas?
Elle n'existe pas. Là, le rôle des associations comme SOS Léni, comme Eva pour la vie que vous avez cité, je sais que vous êtes regroupés sous l'appellation le Parti des enfants, c'est ça?
Exactement.
Voilà, et je vous dis bravo, parce que c'est effectivement ce qu'il faut faire à mon sens. Ben, c'est vrai que quand on est parent et que on est confronté à ça, il y a des mains qui se tendent au niveau associatif, et c'est très important. Et puis quand on sort de l'épreuve, il y a beaucoup de parents aussi qui essayent de faire quelque chose pour les enfants et qui se mettent en association. Et c'était aussi quasiment la première chose à laquelle j'avais pensé lorsque ma fille est partie. Je voulais faire quelque chose, et j'ai remarqué qu'il y avait déjà beaucoup d'associations qui font des actions, qui font des événements, qui organisent des concerts, qui organisent des marches pour recueillir des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Et je trouve que c'est très intéressant, mais je n'allais pas rajouter une association sur toutes celles qui existaient.
Donc il vaut mieux se joindre à une existante,
voilà,
déjà.
Ce que je me disais, c'est que, en plus, j'étais loin, moi. Je suis de La Réunion, donc c'est effectivement loin. Et je me suis dit, il faut que ces associations arrivent à se fédérer et à faire de grosses actions pour mieux flécher et rendre plus efficaces leurs actions.
Mais aujourd'hui, juste pour revenir sur pourquoi ça coûte si cher, pourquoi il n'y a pas de recherche, qu'est-ce qu'ils vous disent, les chercheurs, les labos, les médecins?
Alors d'abord, pourquoi ça coûte si cher, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de médicaments pour les cancers pédiatriques. Et qu'est-ce que l'on fait? On fait des déclinaisons des médicaments que l'on aurait pu trouver pour les adultes. Mais le corps d'un enfant, et notamment dans le cas des tumeurs cérébrales, le cerveau des enfants ne réagit absolument pas comme celui des adultes. Et c'est une complète illusion de se dire que ce qui fonctionne pour les adultes peut fonctionner pour les enfants. Je l'ai appris à mes dépens dans le cadre du traitement et des traitements de ma fille. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous avez donné les chiffres tout à l'heure. Il y a 500 enfants par an qui décèdent d'un cancer. Ces 500 enfants viennent d'un creuset de 2500 enfants qui sont diagnostiqués d'un cancer par an sur 350 000 cancers au total. Donc, les enfants représentent moins de 1%.
C'est ça, oui.
Et c'est moins de 1%, c'est quantité négligeable pour la recherche. Moi, j'ai été scandalisé lorsque j'ai voulu inscrire ma fille à un protocole expérimental et on nous l'a refusé. On nous a trouvé tous les arguments possibles et inimaginables pour nous dire on ne peut pas. Et en fait, quelques mois après, c'est un ami qui a été chef de service dans des hôpitaux qui m'a expliqué qu'il n'y avait aucune chance que l'on prenne ma fille dans ce type de protocole parce que il n'accepte pas les enfants, tout simplement. On considère que la recherche pour les enfants, c'est des investissements à fonds perdus et qu'il n'y a pas de retour d'investissement
choquant,
pour
hein.
les laboratoires. Mmh. Exactement, c'est choquant. Et donc, on est là à parler du prix d'une vie. Pour moi, une vie, d'abord, n'a pas de prix. Et quand il s'agit d'un enfant, encore moins. Mais on est en train de parler de rendement, alors que 500 enfants qui meurent par an, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc, les associations comme SOS Leni et les autres, souvent, font des actions pour amener des fonds à la recherche qui souffre de ne pas avoir suffisamment de fonds.
Et vous militez toujours, Zineb, aujourd'hui, aux côtés
oui,
de vos amis?
Oui, mais justement, je reviens un petit peu, parce que, comme je l'ai dit, SOS Leni n'existe plus. Hein, donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a clôturé l'association et les fonds qui étaient, on les a reversés sur les associations existantes. Et moi, dès que j'ai du temps et que je peux, je me rends soit sur Monaco avec la Fondation Flavien, soit avec Eva pour la vie, ils ont fait des actions dernièrement au mois d'octobre aussi sur Lyon. Donc je suis toujours autant impliquée parce qu'ils se battent depuis maintenant de longues années pour avoir un fonds dédié pour la recherche. Donc faut savoir que ce projet de loi, il avait été mis en avant d'abord par Jean-Christophe Lagarde. Donc il y avait plusieurs associations qui s'étaient réunies pour essayer de
faire bouger un peu les choses.
Voilà, je bafouille un peu parce que bon, c'est vrai que je suis très en colère contre les politiques parce que je trouve inadmissible que des enfants et des parents se retrouvent dans des situations comme ça.
Complètement.
Donc, et surtout, ça devrait être l'inverse. On devrait justement encourager la recherche des cancers pour les enfants. C'est eux qu'on a envie de voir encore 10, 20, 30, 40 ans. Pas forcément. Parfois, on essaie de lutter pour maintenir en vie des personnes âgées et on fait rien pour les enfants. Enfin, voilà, on va pas mettre. Il y a pas une vie qui coûte plus qu'une autre, mais c'est énervant, c'est quand même.
Non, c'est
je comprends votre colère là.
Non, c'est sûr, c'est scandaleux et nous sommes tous en colère. Et quand on est parents qui vivons ça au quotidien, on a envie de prendre ce qui nous tombe sous la main et de le casser. Ça c'est clair. Et effectivement, il y a deux façons d'agir. Il y a ce que vous faites en recueillant des fonds et pour aider les laboratoires qui s'engagent sur la recherche sur les cancers pédiatriques. Et puis il y a ce dont vous parlez également, c'est-à-dire agir sur nos politiques. Plusieurs personnes font du lobbying auprès des députés, auprès des sénateurs, mais sont également remontées au niveau européen pour essayer de faire en sorte que nos gouvernants légifèrent là-dessus et obligent à ce qu'il y ait un fonds minimal qui soit attribué, dédié spécifiquement à la recherche pour les enfants. À l'heure actuelle, je crois, moins de 3% des fonds attribués à la recherche sur les cancers vont au cancer pédiatrique. C'est complètement illusoire, c'est dérisoire. Et je sais qu'au niveau européen, En décembre, il y a eu effectivement une résolution qui a été prise sur ce qu'on appelle le règlement pédiatrique. Mais cette résolution au niveau européen, elle doit être suivie au niveau des nations. Et c'est au niveau des nations, la santé est une prérogative des nations. Et c'est au niveau
c'est
des gouvernements.
C'est une décision nationale et pas européenne.
C'est au niveau des gouvernements aujourd'hui de prendre le combat en main. Juste pour revenir, je sais que le Parti des enfants fait quelque chose dans le cadre de la Journée internationale du cancer des enfants. Et il y a une flamme qui, je crois, part de Marseille et va arriver à Paris sur 8 jours. Et c'est un parcours qui est appelé justement à sensibiliser le public et les politiques sur ce problème de la recherche sur les cancers pédiatriques. Partout où il y a cette flamme qui passe, je vous invite à y aller, à être solidaire.
Merci Zineb de votre appel, merci d'avoir soulevé cette question de la recherche pour les cancers pédiatriques. D'ailleurs, s'il y a du personnel hospitalier qui nous écoute, qui veut témoigner sur comment on travaille justement en service pédiatrique avec des enfants par rapport au cancer, comment on en parle avec eux, comment parfois on se bat pour avoir des moyens et qu'on n'a pas toujours, venez nous rejoindre, on parle du cancer des enfants ce soir au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Comment avez-vous découvert que votre enfant avait un cancer? Comment vous avez encaissé la nouvelle? Et après l'annonce, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez eu l'impression que tout vous échappait, que ça n'allait pas assez loin, pas assez vite? En partie, c'est en partie ce qu'on disait à l'instant sur la recherche sur les cancers pédiatriques. Et puis, qui dit cancer de l'enfant dit cellules familiales chamboulées, les frères et sœurs dont il faut quand même s'occuper, alors qu'ils ne sont plus, à ce moment-là, la priorité. Le temps qui n'a plus les mêmes repères. On se dit tout jusqu'à 22h et vous avez la parole en compagnie de Jerry Aya, notre grand témoin qui a perdu sa fille d'une tumeur au cerveau et qui raconte son histoire dans le livre « Pourquoi je suis pas un papillon » aux éditions de l'Archipel. Une histoire qui fait écho à celle de Sylvie qui vient de nous rejoindre sur France Bleu. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir à tout le monde.
Vous avez perdu votre fils suite à une tumeur cérébrale aussi?
Oui, absolument. Donc moi j'avais un fils à qui on a découvert à l'âge de 5 ans et demi donc une tumeur cérébrale. C'était un méduloblastome. Il a été donc pris en charge, méduloblastome bien avancé puisqu'il avait des métastases dans le rachis cervical. Donc il a eu tous les traitements qui étaient disponibles, c'était en 2001, tous les traitements qui étaient disponibles donc à l'époque, à savoir chimiothérapie, chirurgie et puis ensuite radiothérapie. Et puis ça allait bien, il reprenait le cours de la vie parce que après 8 mois de traitement, c'est très long évidemment pour un enfant qui n'a pas été scolarisé pendant toute cette période, qui sort de là avec quand même des difficultés à se mouvoir, à faire du vélo, enfin tout un tas de choses de la vie quotidienne, puisqu'il avait eu en plus une petite complication à la suite de l'opération. Et tout repart au bout de 8 mois, tout repart petit à petit comme auparavant. On apprend à vivre avec ça, et puis le médecin nous dit je doute fort qu'il y ait une récidive. Il a été bien soigné. 5 ans après, il le considère comme guéri, hein, puisque c'est la fameuse période de rémission. Et puis, au bout de 10 ans, donc après la découverte de la première tumeur, il y a une nouvelle tumeur que l'on découvre à la suite d'une IRM de contrôle qui faisait tous les ans à cette époque-là. Et donc là, c'était une tumeur induite par la radiothérapie, cas très rare a priori chez les enfants. Voilà.
C'était il y a combien de temps, Sylvie?
Donc ça, c'était en 2011, puisqu'en fait, ça s'est écoulé entre 2001 et 2011. Et il est décédé donc en 2011 à la suite. C'était un gliome en fait, hein, c'était un glioblastome. Qui n'a pas pu être soigné.
Forcément, ça vous parle, Jerry.
Oui, le glioblastome, c'est ce mot barbare que je retiens maintenant, qui est dans mon vocabulaire interdit. Et effectivement, c'était la même chose que ma fille avait eu, pardon, et qui était un glioblastome de grade 4, donc le plus agressif. Effectivement, ce que vous dites confirme quelque chose que j'ai écrit dans le livre, c'est qu'on ne se doute absolument pas de la toxicité de ces différents traitements. Nous, on a eu effectivement cette expérience, puisqu'à un moment, notre fille n'arrivait pas à prendre ses gélules d'un médicament que vous connaissez peut-être, qui est le Thémodal, et nous avions demandé à pouvoir extraire de la gélule la poudre qui est à l'intérieur de la gélule. Après beaucoup de tergiversations, on nous a dit OK, mais surtout ne touchez pas la poudre avec vos doigts. Et on s'est dit ouh, ça veut dire que c'est quand même agressif, et ça nous a fait réfléchir. Hein, mais à ce moment-là, vous êtes certainement dans le même cas, vous êtes aux mains du corps médical. Ce que les médecins vous disent, ben vous le faites, vous n'avez pas le savoir, nous on n'est pas les sachants, et donc vous le faites parce que sinon vous risquez de culpabiliser en vous disant vous n'avez pas suivi ce que les médecins vous ont dit. Mais à ce moment-là, on a quand même réfléchi, on s'est dit ça doit être quand même toxique, et bon, ce traitement on l'a arrêté quelques mois après parce que ça ne fonctionnait plus, on est passé à autre chose. Mais les traitements sont extrêmement lourds, sont extrêmement difficiles et extrêmement déstabilisants pour les enfants.
Vous étiez dans quel état d'esprit, Sylvie? Il y a de la colère, comment vous réagissez par rapport à ça? Vous savez que finalement on vous dit que c'est le traitement qu'il a eu sur sa première tumeur qui peut-être l'a tué?
Bah oui, enfin je suis persuadée qu'effectivement c'est ça, mais inversement je pense que dans mon cas il avait eu une dose de radiothérapie très forte parce que la première tumeur avait métastasé dans le rachis, et pour enlever les métastases il y avait la radiothérapie à la fin, quoi, pour finir de nettoyer comme les médecins disent. Donc effectivement, bon, quand on refait le fil de l'histoire, on se dit on leur dit merci quand même, parce que ce qui est quand même important dans mon cas, c'est que pendant 10 ans on a vécu, et on a bien vécu, parce que bon, quelque part on se dit
c'est important de le dire,
bon,
ça.
Il est considéré comme guéri, mais qu'est-ce qui peut arriver?
Est-ce que vous avez été...
Donc on mange la vie à pleines dents, si je puis dire.
Est-ce que vous avez été bien entourée, Sylvie, pendant cette période, ces deux périodes qui ont été difficiles pour vous?
Oui, c'est important d'être entourée par la famille, par les amis, par tous les gens qu'on peut connaître. C'est le corps médical aussi, je dois dire. Moi, mon fils était à l'Institut Gustave Roussy, et je dois dire que les hommes et les femmes qui s'occupent des enfants dans ce service de pédiatrique, je leur tire mon chapeau, quoi. Ils sont vraiment dévoués à un point qu'on ne peut pas imaginer.
Sylvie, je vous rejoins tout à fait.
Ouais. Et du plus petit grade au plus grand, hein, du médecin à l'aide-soignante, ils sont tous...
Et on avait, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un médecin du SAMU qui était notre grand témoin, et on discutait ensemble des différents cas qu'il pouvait rencontrer, et il disait, il n'y a rien de plus difficile que d'être dans un service pédiatrique et de voir un enfant partir. Et il disait, ça touche toutes les équipes du service à ce moment-là. C'est la chose la plus difficile pour les médecins aussi.
C'est vrai. Non, ce que je voulais dire, Sylvie, c'est que je trouve admirable votre façon de positiver la chose. Vous avez dit, on dit merci quand même au corps médical, et notre fille nous a aussi appris à positiver comme ça, et c'est ce qui m'a donné moi le courage d'écrire ce livre, parce que sinon c'est vrai que c'est très très difficile à écrire, c'est très difficile à en parler, et vous avez aussi le courage de témoigner, et j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de parents qui veulent en parler après, hein. Mais voilà, ce côté positif, je trouve ça admirable, et je vous souhaite de continuer à avoir cet esprit là.
Merci de nous avoir appelé, Sylvie. Merci vraiment. On vous embrasse très fort. Et jusqu'à 22h, on continue d'en parler. Les cancers des enfants, c'est le sujet dont se dit tout, avec vos appels, vos témoignages au 0810 055 056.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les cancers des enfants, le quotidien qui va avec, on en parle ce soir sur France Bleu. Et on se dit tout au 0810 055 056 avec Jerry Ayane, qui est notre grand témoin. Auteur du livre « Pourquoi je suis pas un papillon » aux éditions de l'Archipel. Et nous allons accueillir Corinne tout de suite, présidente de l'association Eva pour la vie. On en parlait tout à l'heure. Bonsoir Corinne.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à Bordeaux. Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoint. On va parler de l'association. Eva, c'est votre fille qui est décédée d'un cancer.
Tout à fait, il y a 6 ans.
Il y a 6 ans, et cette envie absolument de monter une association, de se faire entendre, d'aider la recherche aussi.
Voilà, parce que si vous voulez, c'est toujours difficile et inimaginable de suivre le corbillard où repose son enfant. Mais quand en plus vous arrivez à cerner les causes du fait qu'au XXIe siècle on n'arrive pas à soigner un enfant, vous vous dites qu'il faut réagir.
Il y a quelque chose qui ne va pas forcément.
Voilà, parce que après son décès avec son père, avant de créer l'asso, ça nous a pris quelques mois. On veut comprendre pourquoi au XXIe siècle il y a des enfants comme ça qui décèdent. Donc on a fait des recherches, on s'est rendu compte que 500 enfants chaque année, rien qu'en France, décèdent du cancer. Ça représente quand même 20 classes d'école chaque année décimées, pour donner une idée de chiffre. Et après, en creusant un peu plus, ben, on se rend compte qu'au niveau des chercheurs, ils n'ont pas les moyens pour avancer, puisqu'il n'y a que 2 à 3 % des fonds anti-cancer qui sont alloués à la recherche spécifique sur ces cancers de l'enfant, qui sont eux-mêmes au nombre de 60. Et que malheureusement, les cancers de l'enfant ne répondent que très rarement aux traitements qui sont trouvés et qui permettent de progresser sur le cancer adulte, alors que l'inverse est tout à fait possible. Donc des incohérences comme ça et des choses qui nous révoltent et qui nous font dire bah faut créer une association parce que c'est pas normal, ça peut durer encore des décennies.
Il y a beaucoup de parents qui vous ont rejoint dans l'association, Corinne ?
Oui, tout à fait. On a reçu beaucoup de témoignages de parents qui se trouvaient seuls et qui se disent bah là il y a un écho à ce que j'ai vu, à ce que j'ai vécu. On a aussi des chercheurs qui nous ont rejoints, qui nous ont dit bah voilà, nous on est comme des VRP, on voudrait avancer mais on n'a pas les moyens, donc on est obligé de claquer aux portes, frapper aux portes pour avoir des subventions, ce qui est très difficile. Et heureusement qu'il y a les associations. Et donc avec l'appui de chercheurs, de certains oncologues, médecins, on a comme ça une certaine crédibilité en plus de celle de parents, parce que vous savez des fois on nous regarde de haut, on n'est que des parents qui avancent des chiffres. Mais quand on vient à des réunions avec des chercheurs qui soutiennent ce qu'on avance et qui apportent leur professionnalisme et leur savoir, ça crédibilise encore plus notre démarche. Et nous, ce qu'on fait, en plus de récolter des fonds pour avancer à court terme et financer des projets de recherche de l'INSERM notamment, bah c'est de demander qu'un fonds pérenne soit créé pour ces enfants, pour ces cancers. Et pour cela, il faut que l'État prenne des engagements et soit face à ses responsabilités. Qui est au jour d'aujourd'hui n'est malheureusement pas.
Et vous avez un interlocuteur au niveau de l'État? Il y a quelqu'un qui vous écoute, qui vous reçoit, qui prend tout ça en considération?
Vous savez, ça fait 5 ans qu'on se bat. En fin 2014, on a un député, Jean-Christophe Lagarde, comme vous le savez, qui est responsable de l'UDI, qui a déposé une proposition de loi, qui malheureusement a échoué parce que les députés socialistes avaient pour consigne de la part de Madame Touraine de voter contre, même si dans leur fort intérieur ils étaient pour. Donc là déjà, je peux vous dire que ça a été pour nous, on enterrait notre fille une seconde fois. Heureusement pour nous, on a une députée socialiste cette fois, Madame Martine Fort, députée de Gironde, qui s'est dit c'est pas normal, et qui a repris le bébé, si je puis dire, et qui a créé un groupe d'études parlementaires il y a 2 ans. Et de son côté, pas plus tard qu'en novembre dernier, elle a déposé des amendements, notamment un amendement qui permettrait de créer un budget de l'ordre de 17 à 20 millions d'euros pour la recherche sur les cancers de l'enfant et comment, non pas en ponctionnant une énième fois les impôts sur les revenus des citoyens ou autres, mais en ponctionnant les budgets de la recherche militaire et spatiale. Malheureusement pour elle, on s'est dit c'est gagné, elle est de la majorité. Il y a le secrétaire d'État à la recherche, M. Mandon, qui lui a dit bah non, parce qu'on a pris des engagements. Enfin bref, on préfère envoyer des petits robots sur Mars. Plutôt que de soigner nos enfants.
Corinne, aujourd'hui, vous êtes présidente de cette association. Eva, elle est toujours là. On le voit bien quand vous en parlez dans votre combat. Votre fille, Jerry, elle est toujours là aussi dans votre livre « Pourquoi je suis pas un papillon ». C'est important pour les parents qui ont perdu un enfant de faire en sorte que le combat continue, que leur enfant soit toujours là.
Pour moi, c'est important parce que Anne-Laure, quelque part, nous le disait, puisqu'elle nous écrivait partout. Et lorsqu'elle s'enregistrait, elle nous disait toujours la vie doit continuer, la vie continuera. Et moi, j'avais pris aussi comme un appel à continuer le combat. Corinne, bonsoir, je suis content de vous entendre. On a échangé par mail, on a échangé par Facebook. Et effectivement, c'est vrai que ce que je dis toujours, c'est qu'ensemble, on va plus loin. Peut-être un peu moins vite, mais on va plus loin. Et moi aussi... après le décès de Anne-Laure, j'avais pensé faire aussi une association. On réagit tous, je crois, les parents d'enfants qui partent, on réagit tous pareil. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui portent le prénom d'enfant. Hein. Il y a Eva, il y a Mathieu, il y a je sais plus, enfin, il y en a beaucoup. Et parce que nous sommes tous touchés profondément par ce scandale. Et nous avons tous envie de faire quelque chose. Et c'est vrai que j'appelle aujourd'hui, comme vous l'avez déjà fait avec le Parti des Enfants, à se regrouper. Et j'ai envie de vous dire, Corinne, allons faire deux choses. D'abord, aujourd'hui, la vie parlementaire, elle va s'arrêter, forcément, à cause des élections présidentielles. Allons demander à tous les candidats qu'est-ce qu'ils veulent faire. Portons déjà ce combat. Allons-y ensemble. Je vous accompagne, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, allons voir plus loin, mais tous ensemble. C'était aussi une de mes premières idées, mais elle était tellement folle que j'y suis pas arrivé. Et tout seul, j'y arriverai pas, même si j'ai des soutiens au niveau médiatique. Il y a un téléthon qui existe, allons faire un téléthon pour les enfants. Allons nous regrouper, allons faire ça. Je vous propose deux actions là tout de suite. Un, interpeller tous les candidats à l'élection présidentielle. Deux, montons un téléthon pour le cancer des enfants.
Mais il n'y a plus qu'à. Et vous êtes bien parti, je sens. Hein,
je veux le faire.
Merci beaucoup Corinne de nous avoir appelé. On rappelle votre association Eva pour la vie. On la retrouve également sur le net evapourlavie.com. Jusqu'à 22h, vous avez la parole. On parle des cancers de l'enfant.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Les expériences sont douloureuses ce soir puisque l'on parle des cancers de l'enfant avec vos témoignages et avec notre grand témoin, Jerry Ayane, qui a perdu sa fille d'une tumeur au cerveau et qui raconte son histoire dans ce livre très touchant « Pourquoi je suis pas un papillon » aux éditions de l'Archipel. Et on va accueillir maintenant Rémi en Savoie. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
Et on va parler de la famille avec vous parce que quand on a un enfant qui est touché par un cancer, c'est toute la famille qui est touchée. Et ça a été votre cas puisque vous avez perdu votre petit frère d'un cancer. Et comment vous avez réagi? Vous aviez quel âge vous à l'époque, Rémi?
Ben, à l'époque, j'avais 6 ans. Mon petit frère a 2 ans de moins, avait 2 ans moins que moi, il avait 4 ans. Et ben voilà, en plus on venait juste de déménager, à la base je venais de la région parisienne, on venait d'emménager en Savoie. Et vous m'entendez?
Oui bien sûr, on vous écoute, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a su que votre frère avait un cancer, tout a été concentré sur lui, l'attention a été sur lui?
Tout de suite, parce que il arrivait aux toilettes, c'était ses premiers pas, donc à être un peu en autonomie. Et j'ai encore souvenir en fait de le voir debout et d'uriner en fait du sang. Et de là, ben c'est parti très vite et j'ai plus aucun souvenir de lui vraiment, on va dire en bonne santé. Donc ça a tout de suite été la prise en charge de mon petit frère à l'hôpital. Donc à Grenoble, c'était très compliqué et de là, moi qui apprenais à lire, et ben j'ai facilement été très délaissé. J'étais un peu le vilain petit canard. Donc, voilà.
C'est pas le vilain petit canard, c'est juste que l'attention, elle est focalisée sur ce petit garçon qui va pas bien à un moment donné et qu'on se rend pas forcément compte qu'il y a un grand garçon qui a besoin aussi d'attention et qui va pas très bien non plus.
C'est ça. On est une famille nombreuse. Je suis cadet. J'avais un grand frère qui est rentré au collège, donc on s'occupait de lui, parce que l'année prochaine il allait au lycée. J'avais un tout petit qui était vraiment tout petit, un bébé. Et puis moi j'étais entre. Je me suis senti vraiment délaissé. J'étais entre des familles d'amis, j'étais avec mes grands-parents j'ai mal vécu la maladie de mon petit frère, je l'ai très mal vécu. Et cette séparation, on va dire, entre guillemets, qui était temporaire avec mes parents aussi, je l'ai mal vécu.
Et une fois que, malheureusement, je ne veux pas le dire de façon comme une solution, mais quand votre petit frère est décédé, est-ce que l'équilibre est revenu à la maison? Est-ce que vous avez retrouvé votre place aussi?
Oui, je l'ai retrouvé et même que j'ai trouvé ça triste parce que j'étais heureux au début parce que justement, bizarrement, cette famille qui était séparée, elle s'est réassemblée, dans un temps temporaire. J'étais jeune, j'avais pas encore conscience que mon petit frère, il était parti, qu'il n'était plus là.
On vous a expliqué tout ça, Rémi. Vous étiez petit, vous aviez 6 ans, mais est-ce que vos parents ont mis des mots? Est-ce qu'on vous a parlé du mot cancer? Est-ce qu'on vous a expliqué tout ce qui se passait pour votre petit frère?
Je n'avais pas encore compris le mot cancer. On me disait pas cancer, on me disait grave maladie et très malade. On me disait pas cancer. je n'avais aucune conscience et c'est vraiment, en fait, c'est moi qui l'ai demandé quelques années plus tard, qu'est-ce qu'il a eu réellement, parce que c'est dans le temps où je me suis vraiment rendu compte qu'il me manquait quelque chose, il me manquait mon petit frère, et pourquoi. Et puis plus je grandissais, plus j'ai dit pourquoi moi, enfin pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi, qu'est-ce qu'il a eu, pourquoi il y a eu ce cancer, pourquoi tout ça.
Et on voit l'importance de bien expliquer tout ce qui se passe aussi aux autres frères et sœurs. Pour vous, Jirayan, Anne-Laure avait une sœur et un frère, tout le monde était impliqué.
Une petite sœur et un grand frère, et c'est vrai que pour nous, tout passait par la communication. Et c'est bien que vous en parlez aujourd'hui, parce que c'est pas simple non plus. Donc tout passait par la communication pour nous, et c'était le cercle familial qui s'était vraiment ressoudé. On était déjà soudés, hein, mais c'était encore plus fort, et c'était déjà fusionnel entre Anne-Laure et sa petite sœur Alizée. Vous avez la photo
sur la, couverture
du livre où elle se retrouve à l'Institut Curie, et ça a été les grandes embrassades. C'était déjà fusionnel entre elles, et notre fille Alizée, elle a eu aussi une façon de vivre cette période difficile qui a été extrêmement formidable et extrêmement courageuse. Mais c'est vrai que nous, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, et on a essayé, nous, de trouver un équilibre entre les différentes composantes de la famille, y compris avec son grand frère qui, à cette époque, faisait ses études à l'étranger et qui n'était pas bien, et que l'on a fait revenir à la Réunion parce qu'on sentait bien que ça n'allait pas et que sa place était auprès de la famille et auprès de sa sœur. C'est même lui qui avait pris la décision de revenir, et moi j'en ai été fier en tant que père qu'il ait pris cette décision. On n'osait pas lui dire. C'est difficile pour des parents de parler de ça aux enfants aussi, hein. Il faut s'en rendre compte.
Et Rémi, aujourd'hui, est-ce que vous parlez de vos petits frères, de votre petit frère avec vos parents, avec vos autres frères et sœurs? Est-ce qu'il est toujours là, votre petit frère?
Ben, mon petit frère, il est toujours là avec moi, présent. On a toujours ses objets. Les infirmières à l'époque lui avaient offert un nounours. Et pour chaque piqûre, on va dire, parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est aujourd'hui, avec le temps, je sais ce que c'est. Toute ponction lombaire qu'il devait avoir, et ben, il le donnait à ce nounours. Et aujourd'hui, on a ce nounours dans le salon, ben, pour comme signe ben, qu'il est toujours avec nous, on a toujours des photos avec lui, on a toujours ça. Et pour moi, il est toujours présent. Et voilà, enfin, il me manque. Je l'ai pas assez connu. Et je sais pas. Enfin, voilà.
Mais c'est un beau témoignage, et c'est important surtout d'apporter votre témoignage en tant que frère. On a eu des parents qui sont venus témoigner, mais on voit l'importance, hein, de la cellule familiale, vraiment, quand on rencontre ce genre de problème et ensuite de deuil dans la famille. Merci beaucoup Rémi d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu. On vous souhaite une bonne soirée en Savoie.